l'aventure est avec nous. Déploie ton corps avec elle. La rivière est magnifique. Toutes ces étoiles dans l'eau. Je t'aime. Vas-y, prends un verre. C'est du vin nature.
Et bonjour à toutes et à tous, on est toujours en direct du Salon des Vins Nature du Fou. Installez-vous confortablement pour une émission où l'on décortique les grandes questions de notre époque. Et aujourd'hui, on s'attaque à un monument des terrasses branchées. Boire du vin nature, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est un truc de snob? Alors attention, aujourd'hui, pas de jaloux, pas de langue de bois, mais surtout une table d'invités absolument royale pour faire le tour de la question. Ils font le vin, ils le défendent ou ils l'associent à la culture. Laissez-moi vous présenter notre Dream Team du jour. On a Noël Runigo, excusez-moi Noël, Nolwenn. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir, donc, de vous accueillir. Vous êtes du domaine de Tise.
Exactement, ouais.
Tise, c'est un domaine assez, assez proche de chez nous, en fait.
Ouais, c'est ça. Je suis le long de la Rade de l'Orient, à Loc-Michelic, dans le Morbihan. Ouais.
D'accord, on reviendra là-dessus après. Avec nous, on a aussi Alexandre Beyer, qui est l'organisateur du salon, c'est ça?
Oui, c'est ça. On est plusieurs à organiser.
Vous êtes combien?
Là, cette année, on était une quinzaine.
Quinzaine, d'accord. Et avec nous, on a aussi Nathalie Nervez. Elle, c'est une spécialiste un petit peu des langues en général, mais là, elle vient pour la vie en natte.
Tout
c'est
à fait.
Vous allez nous dire ce que c'est qu'après la vie en natte.
Très bien.
D'accord. Donc, mais d'abord, je voudrais m'adresser à Alexandre. Comment est né le salon des vins nature du Fou?
En fait, l'histoire est... On voulait faire avec ma compagne un salon des vins et de la céramique. Et parce que ma compagne est fan de céramique et moi, je suis fan de vin nature. Et ça s'est pas fait comme ça. Mais j'en ai parlé à d'autres copains qu'on a habitués dans le coin et des copains qui étaient illustrateurs. Et Amélie, qui a ouvert la librairie du Fou en 2021, on s'est dit, on est dans l'équipe, on a des illustrateurs, une librairie qui ouvre, on peut lui donner un coup de projecteur. Et on a organisé le salon Vin Nature Illustration comme ça.
Et donc, ça a combien de temps maintenant, le salon des Vins Nature?
Le premier, c'était en 2021, et là, c'est la quatrième édition.
D'accord.
On faisait tous les ans, et maintenant, c'est tous les deux
ans. Tous les deux ans, d'accord. Okay. Et il y a combien de vignerons, à peu près?
Cette année, il y en a 24. On a commencé à 12, après 15, 18 il y a deux ans, et là, 24.
Et c'est des vignerons qui viennent de quelle région en général, en fait?
Toute la France.
Toute la France?
Ouais.
Mais beaucoup plus Loire, beaucoup plus non?
Il y a non, la majorité, oui, il y a, on va dire sur les 24, il y a vous êtes en Bretagne, vous êtes 4 ou 5?
3.
Vous êtes 4, ouais. Et le long de la Loire, ils doivent être 8, je pense, et tout le reste c'est Alsace, Trièves, Aveyron, au pied des Pyrénées, voilà.
Et vous les sélectionnez comment, ces vignerons?
Parce qu'on les connaît.
Au goût, c'est pas par snobisme que vous choisissez celui-là ou celui-là, puisqu'on parle de snobisme.
Non, pas du tout. C'est vraiment, on est une petite équipe à choisir les vignerons et on fait venir ceux qu'on a aimés.
Ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez vus, donc vous vous déplacez pour en déguster pas mal, vous promenez comme ça en France et vous dites, celui-là il me plaît bien, je vais le prendre.
Ouais, en France ou lors des salons, et un magnifique salon aussi à Groix et à Lorient, et il y a aussi des pépites là-bas. C'est comme ça que j'ai connu Tise aussi.
Et ils reviennent tous les ans, c'est les mêmes ou il y a des nouveaux qui reviennent à chaque année, à chaque fois?
Alors, il y en a 4 qui sont sur un stand là, qui sont là depuis le départ. Et puis les Bretons aussi, qui chaque année on leur laissera une place, enfin chaque édition.
Il y en a de plus en plus les Bretons?
Oui, il y en a de plus en plus, là c'est plus Nolwenn qui saurait dire, mais...
Oui, donc Nolwenn, vous êtes arrivé comment dans ce salon, en fait? Par rencontre?
J'ai rencontré Alexandre, Alex, je sais pas si c'est Alexandre, mais voilà, Alex. Je crois que c'était à Loc-Michelic, au salon des vins de Loc-Michelic, qui a goûté, qui vraisemblablement n'a pas trouvé ça mauvais, et du coup qui nous a invités à venir sur ce salon. Voilà.
Ouais, alors vous relevez un vrai challenge, parce que vous êtes vigneronne,
ouais.
Ça c'est déjà dur, dans un métier assez masculin.
Un petit peu masculin. Ouais.
Ensuite vous avez choisi le vin nature, donc c'est encore une niche un peu particulière, et après vous vous installez en Bretagne, où on
en
fait pas de vin.
Vivant.
On fait plus de vin, en fait, en sol vivant, c'est ça? Voilà, c'est quoi, c'est les sols vivants?
L'idée du sol vivant, c'est de ne pas labourer le sol. On appelle ça sol vivant, sol de conservation des sols. Et en fait, moi, je ne travaille que en paillage. J'ai pas de mécanisation. Je paille sous mon rang de vigne et je ne laboure jamais mon sol, en fait. Voilà.
Alors, c'est quand même une démarche encore plus compliquée que de faire du vin conventionnel, quand même, de faire du vin nature.
Que faire du vin conventionnel, oui, c'est sûr. Que faire du vin nat, pas fort. Enfin, là, on parle vraiment du côté agricole, viticulture. Pas forcément, parce que je pense que tous les systèmes ont leur complexité. Moi, j'ai la complexité d'être sur un modèle qui est un peu nouveau, sur lequel on n'a pas beaucoup, beaucoup de retours, et toutes les études qui sont portées ou les formations sont portées plus à un niveau national, alors que tout modèle agricole doit être appliqué à son terroir, à sa pluviométrie, à son ensoleillement, et particulièrement sur les paillages, on a très peu de recul. La manière dont va se dégrader le paillage va dépendre du secteur et où on est, en fait. Donc voilà.
Et vous êtes avec combien de vinifications maintenant là ?
Moi, parce qu'en fait, moi j'ai commencé, j'ai fait le choix de faire du négoce, donc je suis allée vendanger en Loire-Atlantique les cépages que j'ai plantés, parce que je voulais vinifier mes cépages et voir un petit peu comment je pouvais les travailler, sachant que moi je vais être sur de la jeune vigne, donc forcément je vais pas sortir la même chose, et forcément je serai obligée d'adapter mes vinifications. Mais en tout cas, c'était quand même l'idée, et du coup j'ai commencé à vinifier en 2020.
Avec voilà. Quel cépage, en fait?
Melon, Grelot gris et noir, Pinot d'Onis et Albarino.
Et à part le Albarino, il y a des cépages qui sont vraiment des cépages autochtones de la Bretagne?
Non, pas du tout. En fait, on a une petite connaissance de certains cépages qui étaient, mais plus sur la presqu'île de Ruisse. Pour toute une autre partie, on a perdu la connaissance des cépages qui étaient implantés. Moi, je sais que dans la commune où je suis, en fait, la vigne, elle a été remplacée par la pomme de terre, notamment parce que c'était interdit aussi de faire du vin en Bretagne pour la commercialisation jusqu'à 2016. Interdiction qui est arrivée en 1930 et la vigne n'apportait pas grand-chose, surtout qu'on n'était pas une région viticole. Et on a remplacé ces vignobles par de la patate, en fait. C'était de la terre qui est devenue de la terre à patate. Et sur la commune où je suis, il y avait un hectare, je crois que c'était un hectare 5 de vignes plantées, et il restait des pieds qui traînaient par-ci, par-là, donc pré-phylloxéra, du coup.
Ouais, oui, ça.
Du coup, moi, je suis allée prendre des bois et j'ai bouturé, mais pour l'instant, je sais pas ce que c'est. On est nombreux à choper des bois à droite, à gauche, mais... J'ai pas encore fait de recherche en pélographique, donc pour l'instant je sais pas ce que c'est.
Vous travaillez un peu en relation avec toutes les, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui font du vin en Bretagne.
Ouais.
Donc vous travaillez, ils ont peut-être
On s'est rencontrés dès le départ, forcément, parce que eux, même si c'était pas de façon professionnelle, ils avaient quand même une culture, enfin une connaissance de la manière dont la vigne pouvait réagir ici. Voilà. Après avoir 500 pieds de vigne ou avoir plusieurs hectares, forcément, on a été obligé d'avoir une autre réflexion, sachant qu'en Bretagne, on est sur des modèles quand même qui sont très différents. On est tous en bio, mais après sur les modes de culture, sur les modes de vinification, sur les choix de cépages, il n'y a pas de vérité. Et pour l'instant, tout le monde est plutôt dans l'expérimentation et on a des modèles qui sont assez différents quand même.
Voilà. Et il y a des cépages qui ressortent vraiment plus que d'autres?
Alors en fait, en Bretagne aujourd'hui, il y a quand même les hybrides qui prennent de plus en plus de place. Donc ils sont, je mets toujours des guillemets, mais résistants à une partie des maladies cryptogamiques. Après, il y a toute une partie des gens qui se disent réchauffement climatique. Bon, réchauffement, changement climatique, ouais. Mais en tout cas, qui font le choix de planter des cépages. Alors moi, je mets aussi des guillemets, mais d'innobles, du chardonnay, du pinot noir, des choses comme ça. Et on est une toute petite partie. Après, il y a plein de petites choses anecdotiques. Et on est, on va dire, un 20% à planter des cépages du pourtour atlantique, en fait. Voilà.
D'accord. Et en tout en levure indigène, c'est-à-dire que tout est naturel.
Alors,
tout est dans...
chez moi, oui. Ouais. En Bretagne, non. C'est pas une majorité du tout. Mais oui, chez moi, oui. Je travaille que en levure indigène avec des doses de sulfite. Je mets systématiquement une microdose de sulfite avant la mise en bouteille. Bon, 0,75, ça va pas parler à grand monde, non. Mais voilà. Mais pendant mes vinifications, dans la mesure du possible, parce que ça m'est arrivé de sulfiter, je n'utilise pas le sulfite. Voilà.
Alors, j'ai toujours cette question, 0,75 ou rien, c'est pareil.
Ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est même plus le gramme de la peur.
En dessous de 5 grammes, en dessous de 5 grammes.
Et bien, si ça me permet de dormir, moi, ça me va très très bien, en fait.
Ouais, alors c'est super, dormez bien. Et on est avec nous, Nathalie, quand même, qui, alors vous avez un truc un peu particulier dans cette petite fête, c'est vous emmenez des gens pour déguster.
Tout à fait.
Racontez-nous tout ça.
Alors, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de décomplexer les gens vis-à-vis de la dégustation et qu'ils aillent beaucoup plus librement parler avec les vignerons, vigneronnes, parler de vin, de ce qu'ils aiment. Voilà.
Comment ça se passe exactement? Alors, moi, je suis le gens. Okay. Je vous suis, vous m'emmenez. On va par exemple voir Nolwenn.
Alors, en fait, ce que j'ai fait en amont, c'est contacter vigneronnes et vignerons. Et je leur ai demandé si je pouvais arriver sur leur stand avec un petit groupe. Est-ce qu'ils avaient un vin à mettre en avant? Juste un.
Ouais.
D'accord. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que moi après, je sélectionne par rapport au groupe qui est là. Est-ce que vous avez déjà goûté, ou est-ce que vous avez déjà goûté, dégusté, etc. Et à partir de là, je leur fais un parcours en ayant toujours en tête que c'est des vins qu'il va falloir déguster dans un certain ordre,
ouais,
pour que les gens aussi apprécient. Et à partir de là, mais bien, je leur pose des questions ou alors je les fais parler. Et on voit hier, ça a bien marché en fait. Il y a même une jeune fille qui est venue me dire à la troisième vin qu'on est en train de déguster, ça vient. Maintenant, je me rends compte. Ah oui, et je peux dire ça. Et puis ça a ce goût-là. Et je pense que c'est aussi une ouverture qu'on peut avoir et une confiance en soi.
En fait, vous leur apprenez à parler du vin, quoi. En fait,
c'est ça. D'avoir, oui,
de déculpabiliser et d'apprendre à parler du vin.
Tout à fait. Et de se dire que ce qui est bon, c'est ce que j'aime, en fait.
Ouais, c'est ça. On n'est pas dans un esprit technique ici. On est un salon où on vient déguster et on vient essayer de trouver des choses qu'on aime. C'est ça, Alexandre?
Alors, je pense qu'il y a un gros rapport émotionnel parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que on fait venir les vignerons dont on a aimé les canons, mais dont on a aimé les personnes. Voilà.
Ouais,
même si, voilà, on est tous d'accord sur le groupe qui sélectionne les vignerons que, voilà, il y a des canons qu'on a aimés et c'est pas forcément passé avec la personne, avec nous, voilà. Et du coup, nous, on a envie que ça soit un salon où tout le monde se sent bien, que ça soit bienveillant et que ça nous ressemble.
Ouais.
Donc c'est que des gens qui nous ressemblent et je pense que les vignerons et les bénévoles le ressentent aussi par rapport à ça. Et autrement, si, c'est quand même technique, parce que pour travailler avec le vivant,
ouais, ça c'est
sûr. Technique.
Non, mais technique, je parle de ceux qui dégustent.
Ah oui, alors ceux qui dégustent, si, il y a quand même le dimanche, il y a quand même pas mal de pros. Et puis Nat, elle en parlera avec moi, mais elne a quand même fait une formation aussi d'œnologie.
Nat, vous l'idée de la tête, oui, en disant non, pas forcément.
Pas forcément, parce qu'en fait, quand je dis décomplexer les gens, c'est aussi les gens, ils commencent aussi à poser des questions. Comment c'est fait? Qu'est-ce que, et on peut y répondre à ces questions. Autant les vigneronnes et vignerons, les premières personnes à pouvoir y répondre, ou moi, ou quelqu'un d'autre aussi dans le groupe. Il y a aussi quelque chose de technique. Et c'est moi, ce que je voulais aborder, c'était la dégustation beaucoup plus d'un type holistique, hein, enfin une dégustation holiste, comme nous le dit Pascaline Lepelletier,
ouais,
hein,
ouais.
C'est tellement bien dans Mille Vignes, et pas l'aborder d'une approche systémique, même si on peut le faire, comme on nous l'apprend dans le Wine Set.
Ouais. Mais en fait, après, on voit que les vignerons nature, excusez-moi, Nolwenn, mais sont une certaine personnalité assez forte. On a un peu du mal à y aller. Par moments, ils intimident quand même.
Je dis, c'est pas impossible. Ouais, c'est oui. Ben, je pense qu'il faut un peu de personnalité pour faire ce métier aussi. Après, moi, j'adore transmettre. En fait, enfin, je suis pas une très bonne vendeuse, je pense, parce que je passe beaucoup de temps à expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais, parce que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas arrivée à faire du vin naturel juste comme ça par hasard parce que j'avais envie de faire du vin naturel. Pour moi, c'était une véritable question sociale, politique, écologique. Enfin, j'ai fait des choix, notamment sur la vente. Enfin, tu parles de dégustation. Moi, je vends sur les marchés de mon village ou de la commune d'à côté le samedi matin, le vendredi matin. Et j'essaye justement de transmettre le sens de ma pratique. Et mais oui, je pense qu'on peut être intimidant parce que on réfléchit peut-être beaucoup, peut-être trop à ce qu'on fait, à nos vinifications, et que je sais pas si on sait toujours se mettre à la portée non plus des gens qui arrivent et qui finalement ont juste envie de savoir s'ils aiment ou s'ils aiment pas, quoi. Voilà. Donc
on arrive à ma question. Est-ce que le vin naturel, il y a un petit peu de snobisme derrière?
Ouais, alors moi, je me suis dit, j'y réfléchis, puis j'y ai pas trop réfléchi, mais en fait, quand même, il y a un truc qui m'est venu, c'est que le vin, c'est snob, de toute façon. Qu'il soit naturel ou pas naturel, Le vin, c'est un produit de snobisme, c'est un produit masculin à la base. Et quand on fait déguster sur les marchés, ça, on s'en rend franchement compte. Voilà, c'est monsieur qui connaît le vin, et monsieur, il me parle des grands crus et de ceci et de cela. Et donc, le vin, c'est snob. Et moi, je pense qu'en fait, il y a toute une partie des gens qui se tournent vers le vin naturel et progressivement qui sont tout d'abord choqués. Enfin, quand on parle d'une vente sur le marché, j'ai envie de dire que 75% des gens qui vont goûter mon vin, parce que je fais déguster, la première réaction, c'est du choc. Voilà, ils comprennent pas, ils n'ont pas les codes. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui, si on leur ouvre la porte, ont très envie de venir vers ça. Et il y a moi, je vends beaucoup en restauration quand même, enfin une partie en restauration, tout le reste en vente directe, quelques salons, mais beaucoup de marchés à la ferme, beaucoup de marchés, voilà. Et je pense que j'atteins une population qui n'est pas snob, qui n'a pas envie d'imiter une classe bourgeoise et d'avoir ce même rapport au vin qu'on avait sur du vin conventionnel avant, en fait. Alors oui, oui, il y a une partie de la consommation qui se tourne vers ça, enfin une partie des consommateurs qui se tournent vers ça par snobisme. Mais ça n'est pas que ça. Et en tout cas, c'était aussi à l'origine, je pense que c'était absolument pas l'objectif des viticulteurs et des viticultrices, enfin des vignerons et vigneronnes, ouais. En fait.
Non, voilà. Je pense pas. Nathalie, vous en pensez quoi de cette histoire de snobisme ?
Eh ben, c'est les dégustations guidées, c'est précisément pour ne pas être dans ce snobisme très masculin aussi. Voilà, c'était pour apporter, pour se dire, on peut déguster sans être snob. Ouais. On peut boire sans être snob. Et c'est pas parce que je veux être, appartenir à cette classe un peu supérieure ou que je fais ça. C'est parce que je veux. J'ai envie. Ouais. Voilà.
Et vous, Alexandre, votre réponse à la question?
Eh ben, j'aimerais dire que le vin nature, c'est snob, mais je dirais que c'est pas snob parce que.
Bon, excusez-moi, pourquoi vous aimeriez dire ça?
Eh ben, parce que c'est imiter. Ce qu'on considère comme l'élite sociale. Et ben moi, ouais, pour moi, les paysans en nature et vin nature, c'est pour moi, c'est l'élite sociale, ouais.
D'accord. Donc
à l'heure actuelle.
Donc c'est snob.
Et alors, si je dois être snob, ouais, je le avec fierté, quoi. Mais c'est pas. Je trouve que c'est pas ça.
Mais on ressent pas ça quand on voit les gens qui viennent ici. On ressent pas ce côté snobinaire. On ressent pas ce côté.
Non. Après, moi, j'ai moins l'habitude des salons urbains. Alors peut-être que dans des grandes villes, je sais pas ce que ça donne, mais c'est peut-être différent que dans les salons plus dans les bons ruraux, quoi.
Alors j'ai fait un petit jeu. J'ai demandé à des auditeurs de nous écrire des petites questions sur le vin nature, de nous poser des petites questions. Sur l'histoire du snobisme et des vins nature. Je l'ai mis dans un crachoir, je trouve ça tombe très bien, un crachoir. Et c'est vous qui allez vous poser vos questions. Allez-y. Si c'est con, vous me dites, c'est trop con, je ne réponds pas.
Ouais, mais d'abord, je dis la question quand même, ouais. Avant de la poser. Non, et monsieur. Je la pose à qui
On se la pose.
À toi.
Alors, à moi-même.
Bah, ça dépend. C'est, ouais, ça dépend.
Je peux changer de question? Non, je déconne. Ah bon, bonjour, hein. Merci. L'histoire du vin n'est-elle pas une éternelle suite de snobisme? Le goût du soufre sous les Romains, le goût du bois neuf dans les années 90, le goût du nature aujourd'hui.
Ça, vous avez un petit peu répondu en parlant des autres vins qui étaient snob avant. Et...
Ouais, c'est ça. Oui, dans ce cas-là, on peut répondre comme ça. Après, est-ce que le bois neuf dans les années 90 ou le soufre sous les Romains, oui, c'était essayer de classer le vin dans une certaine catégorie avec une façon de boire ce qui était considéré comme être un bon vin. Donc oui, ça a existé tout le temps. Et en fait, je réagissais aussi tout à l'heure, enfin, je pensais à ce que disait Alexandre tout à l'heure sur les vignerons qui font partie de l'élite, entre guillemets. Bon, je m'y retrouve pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Par contre, quand on regarde le milieu agricole, les vignerons, c'est pas un paysan qui élève du cochon. Faut être très clair dans l'image que ça renvoie. C'est pas un jugement de ma part, mais dans l'image que ça renvoie, je pense qu'on s'est peut-être un peu positionné aussi sur cette agriculture qui serait soi-disant plus classe qu'une autre. En fait, c'est pas impossible. Je me suis fait cette réflexion, en fait.
Mais plus classe en ayant quand même un look un peu plus paysan quand même.
Bah, je suis bien habillée, là, non?
Non, je parle pas de vous. Je parle en général. Non, vous êtes magnifique. Non, changez surtout rien. N'a-t-il une petite question stupide?
Allez.
Ou pas stupide, d'ailleurs.
Alors, si demain le vin nature devient la norme absolue et obligatoire, perdra-t-il son charme rebelle?
C'est dur, hein, mais il y a un petit côté rebelle, on est d'accord derrière.
Tout à fait, tout à fait.
De vouloir faire les choses différemment. Ouais. D'ailleurs, ouais. Mais c'est intéressant, ce côté rebelle est différent. C'est ça qui est intéressant, c'est la différence, en fait. Hein,
Mais s'il devient la norme absolue et obligatoire, en fait, je pense que c'est ce côté absolu obligatoire qui
dérange.
Qui dérange beaucoup.
Ouais.
Ok, on fait. Ce serait bien qu'on fasse ce qu'on aime faire. Voilà.
Pourvu qu'on soit différent.
Tout à fait. Dans notre diversité.
Dans notre diversité. Alexandre ?
Alors, avez-vous déjà croisé des clients qui achètent vos vins juste pour le style ou pour l'étiquette, souvent très graphique, BD, sans vraiment comprendre le travail derrière ?
Alors ça, c'est presque une question qui est plus pour Nolwenn, quoi. Est-ce qu'on achète vos bouteilles sans comprendre votre travail ?
Alors, l'étiquette, moi, je travaille avec un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Florent Groisel.
Ouais.
Donc,
oui. Qui est dans le coin, non?
Qui était à la dernière session, mais pas cette fois-ci. C'est son collègue Yun Lokar qui est là. Mais oui, l'étiquette, elle attire l'œil. Sans comprendre, bah oui, forcément, j'ai envie de dire, c'est quasi obligatoire. Enfin, sauf sur des gens qui sont très impliqués dans la vinification naturelle, qui connaissent bien, qui ont l'habitude de le boire. Pour la plupart des gens, quand ils commencent, en tout cas... Bah oui, il y a une incompréhension parce que le palais il est culturel et que la rencontre avec ce vin nature, c'est une découverte et forcément c'est une incompréhension et c'est pas grave. Mais oui, on peut m'acheter on va se tourner vers ma bouteille pour l'étiquette. Moi je suis en bouteille capsulée, transparente. J'ai des étiquettes qui sont très colorées, donc oui. Et en même temps, Florent Groisel, il dessine pas les étiquettes par hasard. Il vient au chai, il écoute les vinifications, il goûte, etc. Donc on a ce véritable travail. Et l'étiquette, par exemple, moi j'ai un vin qui s'appelle Billy Warzy Ribin. Et ça veut dire les galets dans les petits chemins. C'est la symbolique du bruit du ressac en breton. Et sur le dessus de la cuve, on entend un petit peu ce bruit-là qui coule. Et moi, l'étiquette, pour moi, elle a un sens par rapport à mon vin et à ma vinification. Je fais pas ce choix de vinification par hasard. Donc quasi systématiquement, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est clair que le design, en vin nat, on a radicalement changé les codes. Hein. On est passé sur complètement autre chose.
Ça a bougé.
C'était un peu une provo aussi. Et puis en fait, est-ce que c'est grave ? Ben non, ça, on a le droit de faire des belles choses, en fait. Voilà.
Ouais, vous faites des belles choses. J'ai dégusté vos vins sans vouloir être un peu flatteur.
Merci.
C'est joli, c'est droit, c'est frais. Alors pourquoi la capsule ? Pourquoi pas un bouchon ?
En fait,
quoi.
Je suis dans un circuit de réutilisation des bouteilles qui s'appelle Distro en Bretagne. Et quand j'ai commencé à faire du vin, on n'était pas très nombreux. Moi, à l'époque, c'était que du négoce, mais il n'y avait pas d'autres. Et il n'y avait pas de bouteilles de vin. Et je me suis dit, pourquoi pas une capsule ? Surtout que moi, je suis sur des vins plutôt frais quand même. C'est pas des vins de garde. Enfin, certains auront un temps de garde qui peut être intéressant. Mais et je me suis dit, cette histoire de micro-oxygénation, elle va peut-être moins me gêner.
Ouais.
Donc j'essaye et puis on verra bien. À un moment, je changerai. Et en fait, non, j'aime ma capsule. J'aime peut-être le côté populaire de la capsule.
Et en mode de vinification, vous avez essayé des choses comme l'amphore ou...
Pas forcément. Je me suis posé la question. Après, moi, je suis sur de la presse lente. Hein. J'utilise un pressoir vertical. Donc, je sors des choses qui sont déjà assez fluides à la presse. Mais c'est des choses qui pourraient m'intéresser. Ouais. Après, c'est des budgets. Hein. C'est ce qui pourrait m'arrêter, en fait.
On passe à une question ? Parce qu'elles sont peut-être stupides, mais elles avancent. Elles font avancer le débat.
Alors... Ah, question à un vigneron. Le Larousse définit le snobisme comme l'imitation des milieux en vogue. Quand vous piochez dans vos vignes à l'ancienne, vous vous sentez plutôt avant-gardiste branché ou paysan hors du temps ? Nolwenn, je pense que c'est à toi cette question.
Eh là là.
C'est tout pour Nolwenn.
Ouais, c'est ça. Non, moi je me sens paysanne, hein, clairement. Quel que soit ce qui se passe, je me sens paysanne. Enfin, moi je suis dans l'idée de la paysannerie. Voilà.
Alors, on continue les questions. Alexandre.
Le vin nature a-t-il sauvé des cépages oubliés ? Oui. C'est pareil.
C'est intéressant cette question parce que c'est comme c'est des vins de niche, on dirait. C'est peut-être une vraie recherche peut-être de cépages de.
Oui, typiquement les vignerons aussi du Trièves là, ils ont remis au goût. Des cépages qui poussaient avant dans le Trièves et qui sont remis au goût du jour. Quoi. Mais je ne sais plus le nom des cépages. Mais,
D'où ma question tout à l'heure sur est-ce qu'il y a beaucoup de cépages autochtones qu'on retrouve en Bretagne, qu'on arrive à retrouver quoi,
qu'on pourrait, mais pour l'instant, on n'en est pas là, en tout cas. Et puis, il y a eu beaucoup de pertes, en fait. Donc, l'idée, c'est de savoir de quelle famille ça vient, parce qu'en fait, c'est certainement pas complètement indépendant. Hein. On est tout proche de la Loire, à mon avis. On a des grosses proximités dans les familles de cépages, je pense. Ouais.
Vous arrivez à en vivre, Nolwenn ?
En survivre pour l'instant.
Parce que vous n'avez pas beaucoup de vignes, donc.
Non, je n'ai pas beaucoup de vignes. Après, j'ai un modèle à mon échelle. Hein. Ouais. J'ai pas. Qui dit manuel dit pas d'emprunt, enfin pas de mécanisation. Moi, j'ai pas d'emprunt. Moi, j'ai tout construit. Quand on me demande si je suis paysanne, oui, je suis paysanne. Moi, j'ai tout construit petit à petit à ma hauteur. Donc, de dire que j'en vis, non. Je commence à pouvoir me rémunérer un petit peu ouais, au bout de 5 ans.
Ça marche comment ça? Il faut augmenter les prix des bouteilles?
Ouais. C'est ça. Mais bah oui, c'est ça. Ou alors faire plus de bouteilles, mais avec mon modèle agricole, je peux pas pour l'instant. Ouais. J'ai 1,2 hectare, je pourrais arriver à 1,7 hectare, ce serait le max en fait, avec un modèle tout en manuel. Et oui, ça voudrait dire augmenter le prix des bouteilles, mais avec mon système de vente, en allant sur les marchés, moi le petit papy, il va pas m'acheter une bouteille à 30 euros, et j'ai pas envie qu'il m'achète une bouteille à 30 euros, donc je garde mes tarifs. Ouais.
Ouais, vous évoquez vraiment la problématique des vins nature et des petits producteurs. Ouais. C'est jusqu'où on peut aller pour faire bien sans être obligé de se dévoyer, de rajouter ça, d'exporter au Japon.
C'est une véritable question. Parce qu'en fait, oui, on travaille. Et notre travail, il mérite salaire aussi, en fait. Et on a des charges de travail qui sont très importantes. Mais dans d'autres milieux aussi. Hein. Je veux dire, je parlais du paysan qui élève du cochon. Oui. Il fait pas 20 heures semaine non plus, en fait. Hein. Donc, c'est de toute façon, enfin, que ce soit chez les vignerons ou dans d'autres secteurs, l'agriculture, elle est pas rémunérée à son coût de production. Enfin, c'est faux.
Moi, j'avais des enfants qui faisaient du fromage de chèvre de qualité.
Eh ben,
ils ont fait 10 ans. Hein.
Voilà.
Et puis après, ils ont arrêté en disant, bah, donc, on peut
en
pas.
En fait, c'est vrai que sur cette question, le vin nature est-il snob? Il y a aussi la question du producteur, en fait. Ouais. Vraiment. Parce que moi, je connais pas beaucoup de vignerons qui roulent sur l'or, en fait, en vin naturel. Hein.
Voilà. Non, à moins d'être connu et de passer après d'être un peu, de devenir presque rentrer dans un phénomène de star ouais. Et donc de snobisme quelque part et d'avoir des vins en salle de vente, d'avoir des. Mais des premiers que j'ai connus, il y en a très très peu. Hein.
Oui.
Mais je crois que vous buvez quand même, Alexandre, Nathalie, vous buvez du vin naturel, donc vous allez nous aider. Vous buvez du vin naturel.
Oui,
je pense.
Bien sûr.
Comment vous les choisissez, les bouteilles que vous. Le prix, ça vous dérange pas?
Ah bah si, à un moment donné, le prix est limitant, quoi.
Ah ouais, mais si vous aviez la possibilité de boire une Romanée Conti à 5 000 euros.
Ah bah si j'ai pas goûté et rencontré la personne, non.
Non, d'accord. Ouais. OK, bah donc et des vins nature, c'est quoi le maximum qu'on peut mettre dans le prix d'une bouteille de vin nature?
C'est compliqué, enfin ça dépend du salaire, du budget, de.
Ouais, non mais pour vous chez vous quand vous dites ben ça 15 euros c'est bien, 20 ça, je peux aller jusqu'à 20 si c'est super.
Ouais, ça dépend des coups de cœur, ça peut être je sais pas, 40 50 euros aussi, si j'ai un énorme coup de cœur, quoi, ou que je sais que je regoûterai pas et que j'ai adoré, quoi.
Et vous, Nathalie, c'est quoi comment vous choisissez les vins que vous buvez?
Eh bien, les vins que je bois, c'est des vins qu'on m'a présentés. Soit j'ai rencontré la personne, soit c'est des personnes qui l'ont mis sur ma table. Et puis j'aime beaucoup faire les salons, déguster.
Vous avez trouvé des belles merveilles, là, ici?
Ici, oui, évidemment.
Vous avez un petit vigneron qui vous a marqué, comme ça?
Alors, il y en a beaucoup, nombreuses et nombreux, ceux qui m'ont marqué.
Bon, écoutez, je vous remercie en attendant tous les trois d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Bon, on n'a pas beaucoup bu. Mais tant pis, hein, on va les déguster maintenant, puisque voilà. C'est quand même meilleur. C'est un peu avec raison, d'ailleurs. Et puis, je vous remercie d'être là. Je vous remercie, Alexandre, de faire ce salon, parce que c'est important.
Merci, mais encore une fois, il n'y a pas que moi.
Non, d'avoir créé ce groupe d'organisateurs du salon de vin nature du Fou. Nathalie, c'est joli projet que cette petite promenade pour apprendre aux gens à boire, à connaître le vin. Merci. Et puis Nolwenn, bravo, hein, et puis mes félicitations parce que c'est pas facile tous les jours, je pense.
Pas tous les matins, non. Et ça va mieux.
Ah si je peux placer juste.
Bien sûr.
À 16h, il y a une dernière visite œnologique.
Dégustation guidée.
Dégustation guidée de notre tête.
Voilà. Il fait chaud, mais précipitez-vous, ça vaut vraiment le coup. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir. La nature est avec nous. Déploie ton corps avec elle. La rivière est magnifique. Toutes ces étoiles dans l'eau. Je t'aime. Vas-y, prends un verre. C'est du vin nature.
Et oui, c'est une super chute. On remercie encore mille fois Sandrine qui avait trouvé ce générique. J'ai pas eu le temps d'en trouver un autre, mais il est tellement bon celui-là.
Il est super, j'adore.
Il est génial. Quoi. À chaque fois, c'est marrant parce que les invités se demandent mais il en vient où avec son truc. Puis à la fin, t'as la chute. Ah, tout le monde sourit. Vous êtes à l'écoute de Transistor sur le Sport.4 FM et ou en DAB+ sur tout le Sud Finistère. Et nous sommes en direct depuis la 4e édition du Salon des Vins Nature et Illustration. Il fait chaud. Hier, il faisait chaud. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'il fait chaud aussi.
Non, il fait toujours très chaud.
Il fait chaud, mais il y a un peu plus d'air.
Il y a un tout petit peu plus d'air.
Voilà,
ouais,
c'était pour prendre soin de nos invités qui, pour beaucoup, viennent du sud de la France quand même, et puis où de l'Anjou, et un pays où il fait, on sait, toujours chaud, toujours beau. C'est la dernière émission qu'on vous propose sur nos ondes, consacrée, alors c'est le rendez-vous de la bouteille, consacrée à une rencontre avec des vignerons, et Christophe, je t'ai confié au dernier moment cette interview. Je me disais, il est trop bon, Christophe. Donc, je te laisse nous présenter nos invités.
Tu dis ça parce que j'aime le vin nature, c'est pour ça.
Voilà, mais moi aussi, en fait. J'en ai un peu trop goûté tout à l'heure, on va dire.
Bon, d'accord, alors je reprends le relais. Alors, on a l'immense plaisir d'accueillir un artisan qui ne fait pas de compromis avec la nature. Ses cuvées sont vivantes, vibrantes et racontent une vraie histoire de terroir. Place au partage, à la passion et à la découverte. Il est aussi paysan boulanger et fait un pain incroyable. Alors, c'est Ludovic Gros, pardon. Et vous travaillez d'habitude avec Marie qui n'est pas là aujourd'hui. Elle est restée à la boulangerie.
C'est ça. Marie est en train de trier du grain pour remettre le moulin en route demain. Bon. Voilà.
On reviendra là-dessus parce que c'est très intéressant, la diversification. On a aussi avec nous, ils sont installés depuis... vous avez fait 28 ans que vous êtes
ça
là-bas.
Ça fait 31 ans.
31 ans, c'est magnifique. Bravo de tenir parce que 31 ans dans le vin nature, c'est quand même quelque chose. Alors, vous pensiez avoir tout goûté en matière de vin nature. Eh bien, cet après-midi, on vous propose de découvrir autre chose. C'est le nom du domaine qui bouscule joyeusement les codes et nous offre des cuvées vibrantes, hors des sentiers battus. Ouvrez grand vos papilles, on accueille Tiphaine Pierlot et le domaine Autre Chose. Vous faites ça tout seul ?
Non, nous sommes deux, couple. Voilà.
Et vous, vous, c'était une reconversion ?
Oui, nous, c'était une reconversion où on a trouvé notre voie. Assez plus tardivement, donc c'est l'installation, la création du GAEC, c'est 2022, donc c'est assez récent effectivement. Et oui, moi j'étais graphiste et j'ai fait des écoles de design. Mon compagnon donc cherchait sa voie et a trouvé la lumière et la passion en débarquant dans les vignes par hasard.
Ah ouais, alors comment on fait du vin nature par hasard ? Parce que s'il y a quelque chose de compliqué à faire, c'est bien du vin nature.
Oui. Alors, on a débarqué par hasard. Après, les choses ont été un petit peu plus longues que ça. On a directement... lui et moi, on est directement tombés en Anjou et aussi en Dordogne, mais dans des domaines nature qui étaient déjà ancrés dans cette démarche. Donc, en fait, on a connu que ça. Nous, on n'est pas du tout issus d'un milieu viticole. Moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Lui, il est du Morbihan. Donc, pas du tout de famille reliée au vin. Donc, ça a été vraiment une découverte et on a commencé directement avec l'agriculture biologique et le vin nature.
Quand vous dites Dordogne, Anjou, vous avez fait vos classes dans des domaines
Oui, c'est ça. Enfin, alors, moi, c'était plus les vendanges. Corentin, ça a été ses premières vinifications à l'Estignac auprès de Camille et Mathias Marquet. Grosse expérience aussi, un très beau domaine, des très beaux projets, une vinification, plein de choses. Il a beaucoup appris aussi là-bas. Et à la suite de ça, bon, voilà, tout s'est passé après en Anjou sur plusieurs années d'ouvriers viticoles. Plusieurs vinifications. Corentin s'est lancé un peu avant moi, tout seul, avec un travail en parallèle. Enfin, travailler toujours pour différents domaines. Voilà. Et on a toujours été entouré en fait de bio-nature. Donc en fait, l'agriculture biologique et même le nature n'ont même pas été une question, mais plus une évidence parce que c'est tout ce qu'on a connu et plus que le vin, c'était une vie, une façon de vivre, une philosophie, des gens, des êtres humains. Et on a hésité à s'installer en Bretagne, vu que mon ami est du Morbihan. Mais effectivement, on a choisi de rester en Anjou pour premièrement quand même le social, les gens, ce genre de choses.
Vous dites que c'est pas très social la Bretagne ?
Non, ah bah non, la Bretagne tout va bien.
Alors pourquoi pas le cidre alors ? Parce que la
pourquoi
Bretagne,
pas
c'est...
le cidre ? Oui. Ouais. Ah bah ouais, mais non, on aime bien le pinard. Ouais.
Ah d'accord. Okay. Donc et vous Ludovic, quoi, donc vous vous doutez bien que j'allais bien revenir avec la même question. C'est quoi l'histoire de Terre Vivante ?
Ouais, l'histoire c'est deux personnes qui se rencontrent dans un lycée agricole, déjà un peu dans cette idée d'être sur un retour à la terre. Moi, je suis pas fils de paysan, mais le vin m'intéresse aussi. Et je rencontre Marie, qui est, elle, fille de paysan, une famille de 11 enfants, une petite ferme en autosuffisance. Voilà, on est inspiré par ce retour après avoir bossé ailleurs quand même. Hein. On n'est pas directement allé dans les vignes. Moi, j'ai été sommelier pendant 6 ans. Voilà, elle a fait plein de petits boulots à droite, à gauche dans l'agriculture. Et voilà, en 1995, la grand-mère appelle, on se retrousse les manches. Dans un moment d'inconscience, on fait un saut vers l'inconnu. Et je me retrouve dans un élément que je connais pas si bien que ça. Parce que moi, j'ai pas, encore une fois, on a sauté une génération. Donc, j'ai dû apprendre, faire plein d'erreurs. L'agriculture biologique, c'est un peu un départ, c'est pas une fin en soi. Donc, on s'en est servi comme base de travail au début. Et puis, ben, tout ça évolue. Et évolue vers quelque chose de beaucoup plus vert. C'est-à-dire quand on arrive sur un domaine où ben, c'est du conventionnel, les raisins partent en cave coopérative et tout est très déconnecté finalement, ben, nous on refait de la connexion, de la complexité. On branche nos haies sur les rivières d'à côté, on fait remonter de la faune, la microfaune dans nos parcelles, on plante des arbres dans les vignes, on fait une mare par hectare et tout ça bouge, grouille, chante. Donc c'est
merveilleux. On a envie d'y être, hein, avec un verre.
Du coup, ça fait le lien avec. Je vous avais donné une petite consigne pour cette interview, pour cette rencontre. C'était de ramener un objet, et vous avez ramené chacun un objet. Enfin, le tien. Excuse-moi. Et moi, Tiffaine est moins palpable. En fait, malheureusement, celui de Tiffaine est resté. Il a été
sur le mur de Tiffaine.
Il est resté sur le mur de Tiffaine. On en parlera tout à l'heure de son objet. Et Ludovic, vous avez ramené une paire de jumelles. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment. Je m'attendais pas à une paire de jumelles, mais pourquoi cette paire de jumelles ?
Bah, c'est la suite d'un petit garçon qui s'émerveille dans son jardin devant une fourmi. C'est-à-dire, ça paraît un peu poétique comme ça, mais s'émerveiller du vivant, c'est aussi s'y intéresser, c'est comprendre toutes ces interactions. Et maintenant, un jour, un client passe sur le marché, il vient chercher du pain chez nous, parce qu'on fait un petit marché fermier tous les vendredis à la maison. Et on parle de ça, et il me dit, mais moi, je suis ornithologue et je travaille à l'ONF. Et il me dit, viens voir, on va aller voir dans tes vignes. Et on commence à nommer les oiseaux, à comprendre les chants, et à faire de la reconnaissance. Et quand on met le doigt là-dedans, ben un jour, on met des jumelles dans son tracteur et on s'arrête de travailler et on regarde ce qui passe. Voilà. Donc notre métier, il est aussi fait de ça. C'est-à-dire, non seulement, il y a une pression, c'est-à-dire qu'on doit être dans le rythme de la nature avec un ciel qui est parfois pas toujours précis et qui présente certains dangers. Et il y a des moments d'émerveillement. Et on en profite en plein. Et on se cultive.
Et avec le boulot qu'il y a, vous avez le temps de regarder encore les petites bêtes ?
Eh bien, on se donne le temps. On se
ça,
donne
c'est
le
beau.
Temps. Ouais, c'est là un peu le privilège qu'on s'offre. C'est de baisser la pression. Oui, on a plein de pression, mais aussi on travaille avec la nature. Voilà. Et c'est une espèce de réciprocité, même si elle nous donne beaucoup plus que ce qu'on lui rend. Mais on s'émerveille de ça. Et les jumelles servent à ça. Alors, ça peut être une hirondelle rustique qui passe, ça peut être même une libellule. C'est pas grave, j'arrête le moteur, pas longtemps, mais j'essaie de la caractériser et de m'en cultiver. Voilà.
Tiffaine, vous avez une paire de jumelles sur le tracteur ?
Sur le tracteur, non. À la maison, oui. À la maison, oui. C'est vrai que pendant le travail des vignes, je crois pas qu'on l'ait déjà prise. Après, on a donc depuis 2-3 ans, on a une maison avec une mare où pour ne pas sortir, on utilise des jumelles parce que sinon on effraie ne serait-ce que des canards sauvages ou le héron qui vient souvent ou de temps en temps un martin pêcheur quand on est chanceux. Donc les jumelles sont plus à proximité de la mare pour pouvoir observer ça.
Ludovic, en fait, cette rencontre avec l'ornithologue et c'est justement les jumelles qui vous accompagnent maintenant, ça a changé quoi dans le quotidien du métier ?
Eh ben, ça a changé déjà techniquement ça a changé plein de choses. On sait qu'il y a des interactions dans un écosystème. Il y a ce qu'on appelle une chaîne trophique. C'est le gros qui mange le petit, on va dire. Donc, au niveau des parasites de la vigne, tout se régule naturellement. Ça, c'est un vrai cadeau. Alors qu'on nous a toujours appris que, ben, il fallait pulvériser tel produit quand tu avais tel insecte. Ça, tout ça n'existe plus à la maison. Ça fait déjà un petit moment déjà. On est en Déméter, hein, pour information, depuis 2009.
Donc, c'est quoi Déméter ?
Pardon, c'est de la biodynamie. Et c'est déjà des règles appliquées où on a à la base un respect du vivant. Voilà. Et ça, ça fait 20 ans. Plus. Et ce que ça apporte, c'est une compréhension du milieu. Et puis ça pousse également à l'expérimentation, c'est-à-dire que on va vouloir soigner chaque détail pour être un lieu accueillant pour un maximum de diversité. Et là, quand on y a un maximum, on répertorie 72 espèces d'oiseaux autour de la ferme, dans notre écosystème, 11 espèces de chauves-souris, ce qui est à peu près exceptionnel dans un petit rayon comme celui-ci. Et voilà, et on continue. Voilà, par exemple, le programme de cette année, ça va être de rajouter des cavités, c'est-à-dire des. J'ai des arbres morts un peu plus loin, je vais les déplacer. Des petites choses comme ça, des petits détails qui font qu'on a la petite bête en plus. Voilà.
Christophe, je t'avais dit qu'en fait, on n'allait pas spécialement parler de vin avec Ludovic.
J'ai l'impression, ouais, quand même, mais. Ouais. Je pense qu'on va arriver à lui tirer quand même des trucs sur le vin, parce que moi, ça m'intéresse quand même.
Ouais. Alors juste l'affiche.
Ah oui, alors oui, c'est quoi cette affiche alors que
c'est
l'objet fétiche de
l'affiche qui est sur la table, qui aurait dû être sur la table.
Ouais. Mon choix, oui. Oui, bah pas évident. Je me demandais de quoi je pourrais parler, quel objet effectivement je pourrais prendre. Et on est quand même dans un salon de vin au fou qui s'appelle Vin Illustration. Et donc j'ai pensé à du graphisme. Bon, c'était un peu aussi mon métier, donc je triche un peu, mais. Et là, c'est pas moi qui m'ai chargé. Je ne suis pas l'autrice de ces affiches.
On rappelle que tu es graphiste.
Oui, de base, oui. Voilà. Et du coup, voilà, c'est un collectif qui s'est créé en 2023 de femmes dans le milieu du vin. Voilà, c'est. C'est pas forcément des vigneronnes, même si on est quand même nombreuses. C'est. Toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du vin, sommelières, cavistes. Et après, c'est des affiches donc, qu'on pose dans les salons pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et également des formations, proposer des formations aux femmes, des moments aussi d'échange, de rencontres, de partage. Voilà, c'est juste un collectif. Donc cette affiche ça s'appelle VTF, et donc c'est un collectif de femmes dans le monde du vin, dans le 49. Il en existe plusieurs. Donc Payton Pinard, il y a de nombreuses initiatives du même style, mais j'avais pensé à ça. D'autant plus avec la thématique vin et illustration, vu que là c'était une affiche, voilà. Je m'étais dit que c'était plutôt pas mal. Et de parler que des femmes dans le monde du vin ont toujours été là, souvent dans les bureaux, mais pas que, hein, ça faisait tourner la machine aussi depuis toujours.
Il y en a quand même de moins en moins dans les bureaux, hein, maintenant. On voit plus de domaines avec des femmes à la tête.
Et puis ça fait de nombreuses années que de toute façon, même si effectivement elles étaient plutôt dans l'ombre, c'était grâce aussi à elles qui faisaient tourner la machine avec souvent les compagnons. Enfin voilà, mais voilà, il y a de plus en plus de femmes qui sont vigneronnes, sans hommes. Alors moi j'en ai un, mais voilà, il y a énormément de femmes, il y a des salons 100% femmes, plein d'initiatives et c'est génial, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent et qui font des super choses. Donc j'encourage tout le monde à aller se renseigner de ce côté-là.
Et voilà. Vous faites combien, vous savez combien d'hectares
Nous on est 7,5 environ. Alors ça bouge beaucoup parce que donc nous c'est une création, c'est pas un modèle familial, donc on a dû trouver les vignes, des locations, arracher, refaire, racheter, déplacer, on a trouvé le chai après avoir démarré. Donc un joyeux bazar, donc on est en train de peaufiner ce parcellaire, essayer d'organiser tout ça, et c'est des années en fait, ça met en fait beaucoup de temps, donc nous on vient d'arriver, donc un parcellaire en cours.
C'est une petite question qui fait toujours mal, vous en vivez ?
On en vit tout juste. Parce qu'on a démarré donc il y a peu avec des gros investissements, donc les banques sont derrière et pas qu'un peu malheureusement, on a fait vraiment le jeu des banques et aussi des aides, enfin des GIA, des choses comme ça, les parcours de ce type. Donc on va commencer à respirer un peu plus, mais on a démarré avec des gros enjeux financiers, donc voilà, beaucoup des objectifs de vente à respecter pour pouvoir tenir, vu qu'il y a eu le chai, les travaux, des achats de vignes, de matériel. un lancement, quoi, et tout à faire en même temps. Donc voilà, ça, pour l'instant, ça va, mais c'est voilà, c'est costaud. C'est...
Bon, et vous, Ludovic, alors vous êtes diversifié. Je pense que dans la diversification, il y a une volonté de remettre un peu plus d'argent tous les mois dans les finances.
Ouais, ça,
c'est
ça...
un plaisir juste parce que je rappelle que vous êtes artisan boulanger, c'est ça? Ouais. Paysan boulanger,
c'est ça?
Ouais.
Alors ça se fait à une époque où, dans nos 4 premières années où on livre notre raisin en cave coopérative. Ça devient vite très ennuyeux. C'est de la monoculture. On a fini de livrer les raisins. On va bientôt tailler. On recommence un cycle. Ça donne pas beaucoup de sens, en fait, à notre vie de paysan. Donc, en 2003, on sème nos premiers blés au bord de la rivière, dans un pré, comme ça. Et on a nos blés, quoi. Et c'est une plante un peu miraculeuse qui est assez simple, finalement, à cultiver. Et on achète dans la foulée un moulin et on se rend compte qu'on peut faire nos 2 fournées par semaine. Qui font une trésorerie, en fait, qui font des gens qui traversent la cour de la ferme, qui par ailleurs de temps en temps nous prennent quelques flacons, voilà. Et cette double activité, c'est aussi une espèce de dynamisme. C'était l'initiative de Marie, ma chérie, ma femme. Et ça devient une collaboration. On échange beaucoup, on s'aide chacun dans nos ateliers. En gros, la semaine, c'est les trois premiers jours dans les vignes avec elle, et les 2 derniers jours, jeudi, vendredi, avec Marie au pétrin. Voilà. Et le samedi, vous voyez, on part en Bretagne, on fait des choses comme ça.
Et vous vendez plus de vin ou de bouteilles?
Plus de pain ou de bouteille?
Bouteille? J'arrête de tourner de dégustation. Plus de bouteilles ou plus de pain?
C'est pas tellement en quantité, c'est peut-être plus en chiffres que ça pourrait se dire. Alors il y a eu des grosses vagues. Le vin, c'est très aléatoire en fonction de la mode du moment, en fonction de du porte-monnaie aussi, etc. On va dire que le pain est bien plus stable. Voilà, le pain fait notre trésorerie régulière. C'est quelque chose d'alimentaire. Les gens mangent du pain et quand il est bon, ils reviennent. Voilà, le vin, ça, en ce moment, ça fait à peu près la moitié seulement du chiffre d'affaires.
Ouais. Et vous avez des idées d'extension de nouveaux cépages de pour vous diversifier encore plus?
On a plein d'idées. Alors, il y a déjà pas mal de choses de mise en place. Depuis 20 ans, on a planté d'autres cépages que les cépages Beaujolais, que sont le Gamay pour les rouges et le Chardonnay pour les blancs. On a mis des Gamarais, c'est un cépage suisse rouge, la Syrah. On a mis des...
La Syrah, c'est presque un peu haut pour vous quand même.
Eh bien non, plus maintenant. Le 45e parallèle est monté jusque chez nous. On a des températures qui permettent la maturité des Syrahs.
Génial.
Vraiment, ouais. Et puis du Chenin pour faire résonance.
Alors par contre, là, ça redonnait sur le Chenin.
Ouais, mais je suis étonné, moi, de la bonne adaptation aussi.
Ouais, je l'ai goûté chez vous, c'est quand même assez incroyable.
Voilà, on a toujours
cette fraîcheur, c'est un style ciselé.
Ouais, ouais. Différent. Le Chardonnay, bien sûr. Pardon, oui.
Il faudrait que vous parliez bien près du micro, comme ça. Là.
Moi, j'ai... c'est plutôt le verre que je mets sous le nez.
Je comprends, c'est pas le même goût. Hein.
Et puis, alors, pour finir, Viognier et puis Muscat Petit Grain. Voilà.
Ouais. Il y a quelques cépages, on sent, de pays plus du sud, quoi. Oui,
c'est ça. Alors, moi, j'ai été sommelier avant d'être vigneron et j'avais besoin de toucher à d'autres sensations. Le Gamay, c'est un cépage exceptionnel.
Magnifique.
C'est, je sais pas. Puis en plus, c'est un caméléon en fonction de la colline sur laquelle il pousse. Il a d'autres personnalités. C'est magnifique. Mais quand tu fais un marché fermier où tu vends ton pain tous les vendredis, tout le monde a un cousin qui est vigneron, qui a du Gamay. Voilà, ouais. C'est parti un peu de là aussi l'idée, c'est de proposer d'autres styles de vin en circuit court.
Mais par rapport aux appellations, ça pose un problème?
Aucun.
Parce que de toute façon, vous avez tout en IGP ou en vin?
Non, nos Gamets sont en Beaujolais et nos Chardonnays aussi, mais le reste, ça sort du cadre et on aime bien sortir du cadre. En fait.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le vin nature, c'est qu'on peut facilement sortir du cadre. Et alors, j'ai vu que tu étais sur Déméter, mais pourquoi pas le choix de la VN? Qui est quand même à l'origine l'association des vins naturels, quoi.
Ouais, ouais, ça pourrait être la suite. Je suis pas réfractaire. Encore une fois, tout ça, ce sont des labels ou des certifications, mais c'est encore une fois un point de départ. Pour moi, faut pas que ça soit une contrainte non plus. Et je suis toujours un peu à l'envers, c'est-à-dire que je me dis toujours que c'est pas normal que nous on paye pour montrer qu'on fait sainement les choses. Bonnes. Voilà, mais après, voilà.
C'est logique, c'est un raisonnement logique. Et alors, et vous, je reviens vers vous, parce que quand on entend cette diversification, ça ne vous donne pas des idées?
Ah oui, alors ça, c'est déjà des projets. Bah, on a un projet de mare. Là, ça fait déjà quelques temps qu'on a arraché un morceau de parcelle et là, on vient de planter un petit peu de chenin. Mais dans le bas, on n'a pas replanté l'intégralité de cette parcelle pour la création d'une mare, justement. On a un projet de plantation de haies et de fruitiers avec des associations qui nous aident locales, qui nous aident à choisir les bois à utiliser, etc. Et moi, oui, j'ai très envie de faire des fermentations de fruits. Il se trouve qu'on a un verger qui a déjà été planté, bon, un tout petit, hein, mais oui, j'aimerais bien effectivement faire autre chose que du vin. Encore une fois, nous, c'est très récent, donc c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Mais voilà, il y a des envies, il y a des choses. Et oui, clairement, maintenant, quand on arrache, on replante plus comme c'était. On laisse des espaces, on laisse des haies, on a des fruitiers ou des choses en parallèle. Effectivement, c'est des choses maintenant qu'on fait, qui se font, je crois, en tout cas dans nos milieux, qui se font de plus en plus. Et oui, l'idée de la mare, effectivement, il y a ce projet-là sur une des parcelles. Donc ouais, bien sûr, une envie de une légère diversification, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans l'alcool pour nous, en tout cas pour l'instant. Mais on a également des amis qui sont paysans, boulangers, vignerons, qui ont des doubles casquettes, et c'est vrai que ça permet aussi des choses. Mais oui, bah bien sûr, ça c'est ce que Monsieur fait, ce que Ludovic fait, c'est exactement sur quoi, enfin ce qu'on aimerait faire. Mais ça demande 30 ans, non? Quelque chose comme ça.
Ouais, c'est à cette échelle, c'est à peu près une vie.
Voilà,
ouais,
c'est le projet d'une vie. Voilà.
Une demi-vie, quoi.
Une demi-vie active, ouais.
C'est bien, on reste toujours actif. Enfin, c'est sûr que dans la vie, quand on y est pour la vie. Hein.
Vaut mieux si on veut réussir à atteindre certains objectifs, en tout cas.
Et vos circuits de distribution, c'est quoi, en fait?
Eh bien, alors, pour nous, on ne fait pas beaucoup de direct. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de direct. On est majoritairement cave-restaurant. On va avoir 20-30% d'exportation. On va avoir 10% en particulier. C'est vrai qu'on fait peu de particuliers. Enfin, on fait des salons, mais c'est vraiment à travers ce genre de salon, ce genre d'événement où il y a une rencontre du particulier. Sinon, ouais, c'est énormément cavistes, restaurateurs à travers la France.
Ouais, c'est les gens qui viennent vers vous, c'est vous qui démarchez à chaque fois ou
ça dépend des années, ouais. Ça dépend des moments. Là, ça fait à peu près un an que moi j'ai beaucoup. Comme on est nouveau et qu'on a besoin de se faire connaître aussi, en Anjou, on est nombreux. Donc il faut aussi se déplacer, se montrer et en tant que vigneron, se présenter. Expliquer notre parcours, notre travail. Donc je me suis beaucoup déplacée à Marseille, à Toulouse, à Paris, voilà, des grandes villes de France.
Et aujourd'hui au Fou?
Et aujourd'hui le Fou? Ah bah la Bretagne, nous c'est mon ami est du Morbihan. Donc c'est Sud-Bretagne, alors on est dans le Finistère, donc c'est pas tout à fait la Bretagne, enfin ça dépend des chapelles.
Si, aussi on est vraiment en Bretagne ici,
je
rappelle.
Voilà, non mais c'est ça que je veux dire, c'est que lui, Morbihan, on n'est pas toujours, tout le monde n'est pas d'accord.
Si, c'est la Bretagne, on est large.
Voilà, bon.
Jusqu'à Nantes et Rennes, c'est la Bretagne.
Oula, ça part.
Ouais, alors je vous propose de faire un petit break musical et on va préparer une petite dégustation avec vous. Alors, on vous propose une petite dégustation là tous les deux. Alors, pendant ce petit intermède musical, on va parler d'une chose, c'est que je me suis aperçu qu'il y a, on boit de moins en moins de vin en France et vous me dites tant mieux. Tant mieux,
parce qu'on espère aussi que les gens boivent mieux. Et oui, il y avait plusieurs raisons, autant mieux. C'est que il se trouve que c'est à forte dose, mauvais pour la santé, mauvais pour beaucoup de choses, et que le fait que les gens diminuent ou baissent leur consommation est aussi une bonne chose pour tous. On a des générations de personnes qui ont eu un problème avec l'alcool. L'alcool reste une drogue parmi d'autres. Et effectivement, le fait de moins boire, de boire mieux, c'est ce qu'on espère aussi. Je ne suis pas contre.
Ludovic, vous, votre avis sur la question, c'est un peu la même chose?
Je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, qu'il y ait moins de consommation d'alcool au sens large. J'ai envie d'espérer que c'est un changement de paradigme, en fait, que le vin soit pas quelque chose d'alimentaire, mais quelque chose de festif, réserver des occasions particulières, en cherchant le détail d'une bonne bouteille entre amis, que ce soit du lubrifiant social, voilà,
ouais,
que ça remette de voilà l'humain dans la relation et non pas devant les écrans. Ça peut être bien en petite quantité, sans que ce soit quelque chose, oui, qui soit, ce soit une drogue ou un, ouais, allez, allons-y, un poison. Hein.
Voilà. Moi, je sais que devant vous, vous n'avez pas de poison parce que vous avez deux verres de vin et je ne vous dis pas quel vin c'est. À vous de retrouver le vôtre. D'accord. Voilà. Alors, dégustez et puis commentez en même temps la dégustation de ce que vous ressentez quand même.
Ouais. Alors, juste visuellement, c'est assez sombre tout ça. Hein. On oui. a un vin rouge qui a des reflets violacés, là. C'est
ça. Visuellement, je doute que ça soit mon vin.
Lequel. Ah, déjà, juste à la couleur.
C'est le même vignoble, c'est le même vin. Hein. Donc, vous avez les deux mêmes vins.
Oui.
C'est Yann qui a compliqué les choses.
Donc, c'est pas le tien, Tiffaine, c'est ça?
Ah non, à l'odeur, je ne pense pas. Il doit y avoir... En fait, celui... que vous avez, que je suis censée reconnaître, n'a pas de barrique et c'est une macération assez courte. Là, déjà, on voit une extraction, on sent un peu de boisé.
C'est quoi une extraction ?
On sent que la macération était un petit peu longue, qu'on a cherché un peu à sortir un peu plus de matière.
On est resté plus longtemps sur la macération.
Ouais, la macération était plus longue que ce que moi j'ai voulu faire, en tout cas sur le vin, sur l'autre vin. Et effectivement, enfin, je l'ai pas encore goûté, mais à l'odeur, je pourrais dire qu'il y a un peu de boisé, donc un peu de bois, un peu d'élevage barrique. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit mon vin.
Je suis un peu dans cette même idée. Ça sent un peu la, enfin pas dire la Méditerranée, mais pas loin. Ça fait vin du sud, moi je trouve. Il y a de la concentration aromatique. On est dans des ambiances de garrigue, de mûres, de réglisse. Et en bouche, il y a de la densité.
Ouais.
Sans que la fin de bouche soit trop lourde. Et ça c'est très bon. Pour moi, c'est un peu un exploit.
Cette longueur qu'il y a ou
Longueur, mais à la fois, c'est pas lourd.
C'est voilà, pas lourd, voilà. Ouais.
Et pourtant, là, on est sous un barnum, il fait chaud.
Il fait chaud, le vin a l'air épais quand même.
Voilà. Et à mon avis, il y a quelque chose qui est particulier dans ce vin. Il y a eu un respect, je pense, de la bonne date de cueillette pour ne pas avoir cette charge.
Alors, on va goûter le vin suivant. On donnera la réponse après. Hein.
Ouais.
Alors, en plus, je suis désolé parce que je fais ça n'importe comment. Il y a pas...
Voilà. C'est pas grave, Yann. Sommelier, c'est un métier. N'est-ce pas? C'est ça, Ludovic?
Ouais, alors c'est un métier. Mais alors, et en même temps, finalement, il faut que ce soit assez informel. Le vin, il me semble que c'est OK. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux.
Est-ce qu'il est bon?
Voilà, exactement.
Nous, quand on faisait des dégustations, on disait est-ce que tu en offrirais une caisse à ton meilleur ami?
Mais voilà, et ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Quoi. C'est la conversation qu'on peut avoir la plus intelligente avec le vin. Ah, alors, deuxième cuvée, ça.
Alors, une robe un peu plus claire.
Ah, après, on se rapproche de chez vous, alors?
Non, c'est peut-être un changement de cépage aussi. Enfin, ça peut aussi jouer, pas forcément les jours de macération, mais c'est aussi peut-être le cépage. Enfin, il y a plein de choses.
Ludovic ?
Ouais, alors effectivement, robe plus claire, un nez qui a plus de fraîcheur pour moi. On a l'impression d'avoir dans un buisson, au jardin, en train de manger des framboises. Là.
Ah, c'est y a
du fruit. Ouais, il y a du fruit. C'est assez simple comme nez, c'est pas très complexe.
Ça pourrait ressembler à du Beaujolais.
Mais alors voilà, bien sûr, moi j'ai reconnu, je pense, hein, cette trame-là de ce que pourrait donner un gamay sur nos sols.
Ouais, c'est des sols de...
Alors là, cette parcelle, si c'est celui-ci, hein, parce que alors c'est très facile de se tromper dans le monde du vin. Il suffit qu'il y ait une émotion qui passe par là et on peut vite changer de microclimat, on va dire.
Ouais,
le sol, là, en l'occurrence, c'est un sol limoneux.
Ouais.
Donc c'est plutôt des éléments fins. C'est un sol assez doux au toucher, ouais. Et qui garde l'eau. C'est-à-dire ouais. Quand je suis arrivé à la ferme, j'ai vu de la vigne sur ces terrains-là, je me suis dit, il faut qu'on arrache sur ces terrains, s'il ne faut pas mettre de la vigne. Et on est tellement contents de les avoir, ces sols maintenant, qui restent frais et qui gardent la fraîcheur et qui donnent cette fraîcheur aux raisins. Pendant les canicules, ça craint moins qu'ailleurs. Ouais. Voilà, les raisins restent joufflus.
Ouais, je vois ça. Et vous c'est plutôt les sols, c'est quoi chez vous un peu
On va avoir effectivement des schistes qu'on réserve souvent pour les blancs.
Pour les blancs, hein, ouais.
Pour le chenin. Nous, on a de l'argile, du schiste pourpre, des argiles, Un tout petit peu de calcaire. Oui, voilà.
Alors, on vous a apporté une troisième cuvée. Non, ça, c'est le crachoir.
Ça sent bon aussi.
Oui,
ça sent bon aussi. Hein.
Alors, ça, peut-être que c'est le mien.
Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous autorise
à
dire ça ?
Bah, peut-être, hein. Je peux me tromper, bien sûr. Mais une petite gourmandise, un petit croquant. Alors, la cuvée en question. C'est un gros loup noir avec des macérations courtes et un élevage en cuve. Et on a quand même ce côté gros loup un peu grenadine, un peu croquant, assez frais. Et donc, en tout cas, au niveau voilà, de la robe, on reste un petit peu plus clair que le premier. et là, au nez, ouais, j'aurais ce type. En tout cas, ça se rapprocherait.
Je tiens à dire qu'on ne boit pas et qu'on crache hein, en même temps. Et alors, Ludovic, c'était comment ce petit voyage avec cette cuvée précédente ?
Ah, magnifique. C'est bourré de... Moi, j'étais plus le nez dans un bouquet de pivoine. Là. C'est un aspect floral. Très, très élégant. Ouais, c'est fin. On est vite aussi. Ouais, grenadine, ça me parle aussi. Ce côté presque gourmand. Confiserie. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Et quant à la bouche, il y a une fraîcheur d'entrée de bouche. Une matière soyeuse et une finale qui est comme un rebond. Vous savez, qui donne juste envie d'en reprendre un canon, là.
Ouais, ouais, le ça petit, fait saliver. Le petit, et, ce voilà. qu'on appelle saliver, ouais.
ouais.
Le petit goût de reviens-y.
Et oui, la virgule, le point virgule.
Le
ouais.
point virgule. Là, c'est là. Alors, la dernière cuvée.
Ouais, là, vous...
Petit doute, là.
Ouais.
Ne sniffez pas le micro, il ne sent rien, sauf la laine de tous les mecs qui sont passés avant.
Après, je goûte le micro. Hein,
Allez-y, mais je vous conseille plutôt le vin. C'est pas nature le micro.
Là, pour moi, on est plus dans un raisin dans sa macération.
Ah.
On est un peu encore dans, vous savez, dans cette anaérobie que propose
une
cuve.
On est encore voilà. au milieu là.
Voilà.
Au milieu du goût du fleuve là, on est.
Ouais, on est en devenir. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. C'est peut-être aussi un état du vin. Les vins nature, ils voyagent comme ça, selon les saisons. C'est moins expressif et à la fois, on sent une concentration. Il y a quelque chose derrière. Ça, à mon avis, ça peut être des petites bombes aromatiques qui vont se révéler. Pour l'instant, le nez est un peu sur la réserve, mais il y a de la gourmandise. Je te laisse peut-être commenter la bouche.
Oui, tout à fait. Enfin, du coup, je reste sur le précédent, qui serait le mien. Mais oui, il y a quand même une belle fraîcheur. Effectivement un peu foufou, un peu jeune, un peu de qui perle en bouche, qui frétille un peu. On reste sur quelque chose d'assez gourmand, assez fruité, mais oui, peut-être qu'on sort un peu du gros loup noir en tout cas précédent, peut-être un peu moins bonbon, un peu moins grenadine.
Sur celui-là, le dernier, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Vous êtes sûr que c'est pas le vôtre ?
Je crois pas.
Vous êtes sûr,
ah bah,
hein.
Bah voilà. Je ne sais.
Yann, alors, ça a l'air de te faire bien marrer, t'as.
Non, je pense que c'était le précédent.
Alors, 1, 2, 3. Oui, Ludo, vous avez retrouvé votre vin.
Ah,
merci. Okay. Je reconnais mes enfants.
Le premier que vous avez testé, c'était le domaine Badea. Donc, j'ai pas pris les bouteilles, mais bon voilà. Peut-être vous pouvez nous en parler. Ludo, vous les connaissez, non ?
Non.
Donc c'est le sud-sud-est, c'est en bas.
C'est la chaleur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Un Syrah.
Ouais, donc
pardon, excusez-moi.
Le deuxième
quoi.
Était Syrah.
Non, le premier c'était Fontaine des Grives, pardon.
Oui, Fontaine des Grives, un Merlot.
Ouais. Fontaine des Grives. Le deuxième c'était donc Terre
vivante.
Terre vivante. Le troisième,
ouais, donc...
c'était le troisième, c'était Badea.
Ah, d'accord.
Badea. Et donc le dernier, c'était votre vin,
d'accord.
Tiffen.
Et quel cépage pour le
Badea?
Oui.
La Syrah.
La Syrah, je crois.
Ah, c'est... la Syrah. Ok, ouais. Très fraîche.
Okay. Ah, oui, okay. Oui. Une Syrah certainement pas trop extraite.
Eh bah, ben, très belle Syrah.
Ouais.
Voilà.
Ouais, alors, et vous, cette cuvée, c'était quoi que vous nous aviez amené ?
Gros loup noir.
Gros loup noir, vous l'accompagneriez de quoi ?
Ah, alors c'est plus, nous, on appelle ça plus un vin de soif.
Ouais.
Donc, à servir légèrement frais, plutôt en apéritif.
À l'apéritif, ouais. Ouais. D'accord. Et vous, Ludo, ce que c'est arrivé ?
On ne s'était pas concerté avec Tiffen, mais ça aurait été deux bouteilles à faire voisiner sur une planche d'apéro, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu
charcuterie,
le truc, un peu, imprévu, ouais, trois potes qui arrivent et on fait claquer le bouchon et on. et on parle autour, quoi. Sans intellectualiser les choses, mais juste pour le moment.
J'ai bien aimé que vous trouviez votre vin sauvage.
Oui, un peu plus sauvage, ouais. Il a été mis en bouteille au printemps dernier.
C'est quoi un vin sauvage ?
Un vin sauvage, parce qu'on sent qu'il y a encore un peu de CO2, un peu de vie. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est passé d'une cuve à la bouteille. Et là, avec en plus le changement de température là, de ces derniers jours, le camion, voilà.
C'est les vins perlants qui sont... c'est ça, c'est le...
Enfin, sauvage. Alors, sauvage, c'est peut-être... ça peut être péjoratif, le terme sauvage.
Non, moi,
mais
je trouve ça plutôt...
Là, c'était bien. Pas du tout un défaut que je pointais du doigt, mais plus qu'il était foufou.
Il travaille encore, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais vu que c'est en 2025 que je commence à peine à faire goûter, oui, ça m'étonne pas que du coup ils soient un peu foufous.
Les vins nature sont toujours en respiration.
Ouais,
là,
oui.
Là, il est juste en expiration. Et moi, j'ai eu plein de cuvées comme ça aussi. Je vais faire le vieux pépé, qui se révèle, mais alors être incroyablement aromatique quelques semaines, voire un mois plus tard. Mais c'est, à mon avis, un super gros potentiel.
Il y avait des jolies maturités aussi, donc il faut qu'elles se retrouvent en bouteille et qu'elles explosent effectivement. Parce que 25 était belle maturité.
En tout cas, pour notre dernière émission du jour sur ce salon qui est magnifique, on a pris beaucoup de plaisir avec cette dégustation et avec vous deux. Surtout, n'arrêtez pas, tenez bon. Continuez à nous faire des jolis vins comme ça et puis on boira avec raison avec nos amis. Voilà.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci à vous.